L'origine de la pollution chimique des océans est très souvent due aux activités industrielles ou agricoles. Des particules de pesticides utilisées dans l'agriculture, des rejets d'automobiles ou encore d'avions sont transportés par les vents ou par les eaux souterraines. D'après les informations du site Planetoscope, selon l'UNESCO, chaque année, 300 milliards à 500 milliards de kilos de métaux lourds, boues toxiques, solvants et autres déchets dangereux sont déversés dans les mers par les industriels du monde entier. Cela représente en moyenne 12 700 kilos de polluants chaque seconde qui viennent infecter les eaux. C'est tout simplement hallucinant. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintish.
Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute!
Nos guides du jour dans les coulisses d'une application de protection de l'environnement s'appellent Alexandre Decamp et Georges Ruc. Le premier est directeur marché d'environnement au sein de la société Viewpoint qui développe la solution ToxMet dont nous parlerons dans cet épisode. Et le second, il est doctorant avec cette société en même temps que l'INRAE et travaille justement sur cette solution. Alexandre a également travaillé par le passé à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en France en tant qu'écotoxicologue. Avec mes deux guides, nous parlerons d'IA pour mesurer le niveau de pollution de l'eau. Bonjour Alexandre et Georges, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Bonjour, merci.
Alors pour commencer, est-ce que Alexandre, tu peux nous en dire un peu plus sur l'écotoxicologie et son utilité ?
Oui, avec plaisir. Donc déjà, l'écotoxicologie, c'est la fusion de deux mots. Enfin, il y a écologie et toxicologie. Donc en fait, concrètement, c'est l'étude des polluants, des substances toxiques sur l'environnement, donc notamment sur le monde vivant. Donc ça peut être la faune, la flore ou aussi tout ce qui est micro-organismes.
Georges, j'aimerais bien continuer avec toi. Aujourd'hui, on va parler de ToxMet, la solution qui est développée par Viewpoint. On peut se dire, très bien, ça va, c'est sympa. De toute façon, nos cours d'eau sont pollués et on le vit très bien, puisque l'eau domestique est potable. Et finalement, à quel point c'est si important que ça, de se pencher sur la pollution de l'eau, au point de créer un appareil pour mesurer ce niveau de pollution?
C'est une bonne question. Dans le monde de l'eau, surtout en France et partout dans le monde, au Caire, nous avons les stations de traitement des eaux usées. Et déjà, en fait, l'outil ToxMate a été développé pour capturer des hausses et des grands pics de pollution dans ces stations, donc dans ces stations de traitement. Et ils ont dans ces stations beaucoup de mal à savoir ce qui arrive en termes de pollution et quand est-ce que la pollution arrive. C'est quelque chose qui change en permanence. Et nous, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de fournir une aide pour alerter ces hausses en pollution. Et par rapport aux ressources en eau potable, qui diminuent en France, l'autonomie des villes en eau potable, elle diminue. Et en fait, les autres eaux, c'est les écosystèmes qui souffrent. Enfin, c'est des impacts sur la chaîne alimentaire. Les lacs en France, la mer, enfin, c'est pas des endroits où on cherche à avoir des toxiques. Donc, tout est lié dans le monde de l'eau, c'est ce que je dirais. Et souvent, les pollutions extrêmes sont bien concentrées. Et nous, ce qu'on recherche à faire, c'est de fournir un indicateur de ces moments-là qui peut être une première étape pour avoir une solution à ce problème qui est bien sûr lié à tout le monde.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu du cycle de l'eau pour l'expliquer à nos auditeurs qui ne sauraient pas faire le lien entre on va dire, les autres eaux et finalement l'eau domestique potable chez nous?
Le grand cycle de l'eau, c'est tout, ça va partir des évaporations de la mer. Donc l'eau va être sous les états de vapeur, va revenir sur les continents, va s'arrêter généralement au niveau des montagnes et va s'écouler par forme de pluie ou de précipitation, peu importe, et va ruisseler sur des terres. Donc ça va être accumulé dans des rivières, dans des lacs et rejoindre le niveau marin. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. Ensuite, au niveau d'une ville, d'une agglomération, on va avoir le petit cycle de l'eau. Donc, c'est l'eau qu'on va puiser dans le milieu naturel ou au niveau des eaux souterraines pour alimenter les usines de potabilisation, pour alimenter d'eau la population. Et ensuite, au niveau de la ville, ces eaux-là, les eaux usées, donc qui sont sorties des artisans, des industriels ou des habitations, vont être retraitées avant d'être redéversées dans le milieu naturel. Donc ça, c'est le petit cycle de l'eau. Peut-être qu'avant de commencer, il faut redéfinir qu'est-ce que c'est la contamination chimique. Donc les contaminants chimiques, c'est ce qu'on va appeler aussi les micropolluants, ce sont toutes les substances qu'on va retrouver dans l'environnement ou dans notre vie de tous les jours, qui sont de l'ordre du microgramme, donc ça, par litre, ça représente très très peu. Par exemple, ça représente une cuillère à café d'un produit dans une piscine, et à ces concentrations. Il y a ces concentrations-là, ça peut avoir des impacts sur la santé ou sur l'environnement. On peut avoir des contaminants chimiques qui vont attaquer le cycle de reproduction, qui vont avoir un impact sur la croissance ou de la mortalité. Donc en fait, ces contaminants chimiques, ils ont un gros impact, et surtout, c'est des potentiels impacts, et surtout, ils sont très nombreux dans l'environnement dû aux activités humaines, donc aux activités anthropiques. On peut retrouver potentiellement entre 100 et 200 000 substances différentes dans l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a pas de capteur physico-chimique ou chimique qui permet de mesurer la présence bien précise de chacun d'entre eux. Et surtout, en plus de ça, c'est que ces contaminants chimiques peuvent se transformer dans le temps, peuvent se recombiner, peuvent s'accumuler et surtout, différentes substances, peuvent avoir un effet plus ou moins fort sur le vivant. Et donc, c'est pour ça que nous, on a dérivé, on va dire, des outils de biosurveillance pour aider les gestionnaires des eaux à comprendre ces variations de micropolluants en temps réel, parce qu'il n'y a pas d'outils qui existent encore aujourd'hui sur le marché.
Et moi, au-delà de ça, ce que je trouve très intéressant dans votre solution, parce qu'on en a un petit peu, je l'ai découvert et on en a un peu discuté en préparant cet épisode, c'est que vous utilisez finalement le vivant pour, on va dire, évaluer la qualité de l'eau. D'où vient cette idée d'avoir cette approche assez particulière et aussi à quoi ressemble un toxmètre dont on a commencé à parler?
Donc déjà, l'idée d'utiliser des organismes vivants pour indiquer, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un mot qui existe depuis très longtemps, ça s'appelle la biosurveillance. Les gens peuvent utiliser l'observation des lichens pour savoir si la qualité de l'air elle est plus ou moins bonne. Il y a différentes solutions qui existent aujourd'hui. Nous, par rapport au cycle de l'eau, donc surtout au petit cycle de l'eau, c'est venu d'un besoin du marché par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer avant, enfin, la multitude des micropolluants, les différentes sources et surtout les variations dans le temps. Donc du coup, nous, on a eu la vraie essence du produit, ça vient du crâne de notre patron. Et avec George, nous, on est les architectes pour faire en sorte de répondre au mieux à la question en lien avec les gestionnaires des eaux.
Et à quoi ressemble un toxmètre?
Il y a un toxmètre, ça ressemble, on va dire, donc c'est un outil qu'on va mettre sur un site directement. Ça ressemble à un gros frigo américain et qui est composé de deux parties. Il y a une partie qui va dériver un flux d'eau, donc ça se fait vraiment en temps réel, et qui va le conditionner, qui va le préparer. Donc en fait, on va toujours être dans les mêmes conditions expérimentales, donc toujours à la même température, toujours oxygéné de la même façon, etc. Et une partie analyseur en haut, qui est composée de trois cages. On va avoir une cage par espèce, donc on va avoir des petites crevettes d'eau douce, des sangsues et des escargots. Et chacune de ces cages-là sont séparées en 16 compartiments, 16 petits aquariums. On va mettre un individu par espèce dedans, en fait, dans chacun des compartiments, et on va les filmer en temps réel, et c'est ces changements de comportement, ces changements de locomotion qui vont indiquer en temps réel si une eau elle est de plus ou moins mauvaise qualité.
Alors, pour les auditeurs qui voudraient plus de détails, je mettrai dans les notes de l'épisode des vidéos vers le Toxmet et aussi une photo si vous en avez à partager avec moi pour que les gens puissent mieux visualiser la chose.
Et sur je compléterai aussi avec les trois organismes. Donc, on utilise trois organismes différents. Et ce qui est logique là-dedans, c'est que c'est des organismes qui sont vraiment représentatifs du milieu. Donc, c'est ce qu'on trouve. Enfin, on les trouve un peu partout, surtout en France, en Europe. Et c'est un marqueur parfait de l'environnement et de l'état de l'environnement.
Bah, tu me fais une belle transition, justement, en parlant des organismes que vous avez choisis, qui sont finalement des biomarqueurs hein, très bien adaptés à la situation. Comment en êtes-vous arrivé, du coup, à combiner ce choix d'organismes avec l'IA et de quelle manière vous exploitez, on va dire, une belle combinaison de ces deux choses-là?
Alors, pour l'IA, ce qu'on étudie, c'est le comportement de ces organismes. Ce qui veut dire qu'on suit des trajectoires pour comprendre le comportement. Et le comportement, c'est quelque chose qui est très complexe. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est une science très vaste. Et on peut penser à des ordinateurs qui imitent de l'intelligence humaine. Mais finalement, dans ce contexte, c'est surtout par des ensembles de méthodes statistiques et informatiques. Donc, statistiques type mathématiques et aussi type machine learning, etc. qui peuvent... aider à comprendre à caractériser ce signal de comportement qui est de base très complexe. Donc la complexité, c'est ce qui nous a appelé à utiliser des méthodes d'intelligence artificielle. Et on l'utilise notamment dans deux contextes dans le traitement dans le Toxmate. Dans un premier temps, ce sera dans le traitement de l'image. Donc ce qui veut dire que on a un suivi en temps réel qui peut capter des variations à l'échelle très fine. Donc, on est à minimum à 10 images par seconde. On a 16 individus par espèce, ce qui fait 48 individus à suivre 10 fois par seconde. Donc là-dedans, le traitement de l'image, ce qu'on veut sortir, c'est la position de l'organisme dans la cage. Et ça, on utilise le traitement d'image parce que l'eau, elle peut être très claire, ça peut être un peu plus complexe, il peut avoir des débris, des bulles, et là on appelle ça du visual object tracking, donc le tracking de l'objet dans la cage, et ça on utilise ça pour pouvoir s'adapter à ces conditions qui changent pour sortir la position exacte de l'organisme très rapidement. Et ça, c'est pas ma spécialité, même si j'ai participé un petit peu à cette activité là au sein de Viewpoint. Et ensuite, l'autre contexte d'intelligence artificielle, c'est par des méthodes statistiques et surtout du machine learning. Donc, c'est basé sur des statistiques et sur des maths. Et ça, c'est dans le traitement de signal. Donc, une fois qu'on a l'image qui est traitée et la donnée est transformée, pour chaque individu, nous avons une position. Donc, ça nous permet de suivre le trajectoire. Donc, et ça, pour chaque individu, le trajectoire représente une série temporelle. Donc, un signal qui change dans le temps. Et ça, effectivement, pour caractériser et pour mieux comprendre ceci, on a des méthodes statistiques. Je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus dans les détails de quelles méthodes on utilise pour justement fournir cette aide à la décision de détecter des suractivités d'organismes qui sont liées à des micropollutions de l'eau.
Alors, est-ce que je résumerais bien en me disant que finalement, il y a deux grandes étapes. Il y a une première étape où on veut analyser le flux vidéo et vous récupérez en fait la position au cours du temps de chacun des micro-organismes. Et ensuite, il y a une deuxième étape où finalement, on va traduire en fait cette position-là en un signal temporel, tout simplement, qu'on va analyser pour, je suppose, vérifier si c'est un mouvement qui est lié à un niveau élevé ou pas de microcoquillon. Est-ce que je résume ça bien?
C'est exactement ça. Et on cherche sur la deuxième partie à simplifier le signal.
Super. Et avant qu'on parle de la seconde partie, parce que c'est bien que tu sois avec nous, Georges, pour en parler, j'ai une petite question sur la première. Je suppose que, comme on est quand même dans une application assez particulière, parce que souvent le problème en image, c'est les bases d'images, soit pour apprendre, on va dire, un comportement stable. Je suppose qu'il n'y a pas de base ouverte pour ce genre d'application et que vous avez dû créer votre propre base. Est-ce que c'est laborieux ou pas? Ou c'est relativement accessible?
Alors, c'est vrai qu'on a dû, créer notre propre base de données pour ces apprentissages. Ça, c'est parce que c'est un contexte très particulier. Effectivement, le Toxmate, c'est un outil qui a été développé, qui est assez unique. Moi, je dirais que c'était pas forcément très laborieux. Ce qui était surtout laborieux, c'était le développement de l'outil. Parce qu'en fait, une fois que l'outil était capable de suivre les organismes, on peut avoir une base de données avec beaucoup d'images en relativement peu de temps. C'est pas des bases ouvertes parce que c'est très niche à notre activité. Mais ce qui a aidé, c'était que Viewpoint, la société Viewpoint, ils avaient déjà des outils dans d'autres applications sur l'image. Et du coup, cette compétence-là, c'était quand même quelque chose qu'ils avaient.
Bah ça, c'est cool parce que finalement, des fois, ça peut être, on va dire que les bases peuvent être limitantes pour aller vite. Mais finalement, dans votre cas, c'est un peu l'inverse. Je peux comprendre parce qu'il faut réussir à suivre autant de micro-organismes. Il y en a du coup 48, c'est ça, à suivre. Et ça, c'est quand même assez conséquent. Donc, je peux comprendre qu'il vaut mieux commencer par avoir un algo qui reconnaît bien les différents micro-organismes avec les bonnes positions, ensuite pour que la deuxième étape se passe bien. Et vu qu'il y a Georges avec nous qui s'occupe des séries temporelles, si tu veux bien qu'on en parle concrètement, à quoi ça ressemble les algos pour la partie traitement du signal, du coup, des positions de tes micro-organismes?
Ouais, bien sûr. Donc déjà, je suis tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire. Donc, ce qui est chouette dans le traitement de l'image, c'est que ce qu'on fait nous, c'est relativement simple par rapport à ce que fait des suivis, enfin des caméras qui sont capables de détecter 100 voitures sur l'image et 100 personnes. C'est relativement simple là-dedans. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout de le faire très très rapidement. C'est sympa parce qu'on a pu utiliser ce que les autres gens ont fait beaucoup mieux et adapter à notre cas qui est beaucoup plus simple. Donc finalement, ça s'est allé plutôt assez vite. Et ensuite, on se retrouve avec une base de données qui a plus d'images et que des positions, que des chiffres qui représentent la position et le trajectoire. Et ensuite, déjà pour parler ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire avec ça, je pense que le contexte, c'est important du projet de recherche qui est en cours. Et ça, c'est justement d'associer un certain type de comportement à un certain type de contaminant. Et ça repose sur l'idée que en fonction de la pollution qui est présente dans l'eau, la réaction de l'organisme ne sera pas toujours pareille. Ça, c'est quelque chose qui est étudié en écotoxicologie et en sciences plus largement. Et ça peut être dû à plusieurs choses. La mode de la contamination, donc est-ce que ça affecte, est-ce que c'est un neurotoxique, est-ce que c'est quelque chose qui agit différemment. Et en fonction, le comportement n'est pas toujours pareil.
Et ah là, oui, d'accord. J'imagine, finalement, t'as aussi toute une connaissance a priori sur la réaction de tes micro-organismes par rapport à tes potentiels polluants finalement aussi.
Tout à fait. Donc ça, c'est surtout de l'expertise qu'ils ont dans le laboratoire d'écotoxicologie, qui est composé de les écotoxicologues, souvent c'est un mélange de biologistes et de chimistes qui comprennent bien ce qu'on appelle les modes d'action des polluants et comment ils vont agir sur les organismes.
Ok, super.
Et donc, pour compléter un petit peu sur l'intelligence artificielle et surtout les méthodes statistiques qui sont utilisées pour essayer de regrouper ces signaux et de trouver des similarités ou des différences entre des signaux, on a un laboratoire d'expérimentation à Lyon, dans le centre d'INRAE, qui permet de réaliser beaucoup d'expériences pour simuler une pollution qui pourrait avoir lieu dans une station d'épuration. Ce qui veut dire qu'on a ces ToxMates, on a 10 ToxMates qui tournent en permanence dans le laboratoire, où on peut introduire une solution avec une micropollution, donc une solution comme la cuillère à café dans la piscine, ouais. Sauf que c'est encore moins, c'est plutôt 1 ml dans un petit réservoir, pour observer justement comment réagissent les organismes. Ça, c'est sur des concentrations très faibles qui représentent des concentrations qu'on peut voir éventuellement sur le terrain et dans les stations d'épuration. Et les deux types d'algorithmes qui sont utilisés ensuite, c'est des méthodes de classification. Surtout globalement, c'est des méthodes de classification, donc qui cherchent à identifier des groupes et des classes de réponses pour mettre une sorte de frontière entre deux groupes. Et ça, on a à la fois des méthodes supervisées et non supervisées. Et ça, je dirais juste que non supervisé, en fait, c'est l'approche où on rentre sans a priori. Donc, tout ce que je viens de dire sur la mode d'action et le moyen d'agir sur l'organisme, ça, on
l'ignore complètement. Ouais.
Exactement.
On connaît pas, ouais.
Et sur supervisé, on va dire, ces deux expériences-là, c'était deux méthodes. Donc, on sait que ces réponses, ça devrait se retrouver dans le même groupe. Et donc ça c'est les méthodes de classification qui sont utilisées pour essayer de pousser un petit peu la réponse et de mieux caractériser les signaux qui sont observés.
C'est super parce que finalement c'est aussi des approches que moi j'utilise maintenant que je travaille un peu plus sur les séries temporelles que sur les images, parce que des fois tu n'as pas ce qu'on appelle des annotations, donc tu n'as pas l'information dans votre cas peut-être sur le mode de réaction. Et on est quand même capable de séparer les données en aveugle parce qu'on part un peu du postulat, en tout cas je parle pour ce que j'ai fait, on part du postulat qu'un même comportement induit en fait une variation cohérente de notre système. Je prends un exemple simple, si j'ouvre la porte du frigo et que je la referme plusieurs fois, normalement, si je récupère la température qui s'échappe du frigo, c'est relativement la même. Si je laisse la porte du frigo longtemps ouverte, en fait, je vais avoir un refroidissement du voisinage de mon frigo. Donc, en fait, on sait que quand on est dans des séries qui évoluent, des signaux, du coup, pas des séries temporelles, qui évoluent d'une façon cohérente suivant le temps, les mêmes types de dysfonctionnements provoquent les mêmes évolutions de signal. Alors, ça, c'est vrai dans certains cas. C'est pas toujours vrai, c'est pour ça qu'on a besoin des fois d'annotations pour justement pallier les mêmes classes de comportements qui font des choses complètement différentes. Je pense que moi, l'exemple le plus simple que j'ai, c'est les atterrissages d'avions qui sont pas toujours les mêmes en fonction de la longueur des pistes. J'ai fait une piste très courte à Glasgow, c'est pas du tout le même confort qu'une piste relativement longue à Cotonou, au Bénin ou à Paris en France. Donc je pense que c'est la même classe, mais en fait, on a un comportement qui est complètement différent. Donc, c'est cool que tu puisses en parler. Mmh. Ah, donc, si je comprends bien, tu as une première fonction, finalement, de classification pour dire, pour reconnaître potentiellement le mode d'action. Je suppose que tu valides les résultats avec tout ce qui se passe en labo. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître, et c'est une question complètement ouverte, hein, est-ce qu'on est capable de reconnaître un mouvement inattendu?
Un mouvement inattendu?
Oui.
Oui, et ça c'est une bonne question parce que le comportement c'est assez aléatoire. Et c'est pour ça que justement un premier travail avec notamment je pense que Alexandre il pourrait développer, mais un premier travail dans le développement du Toxmate, c'était de rendre déjà le comportement de base des organismes le plus stable possible. Et ça en fait ça permet d'avoir un niveau de référence qui et du coup à chaque fois qu'on dérive de cette référence, on peut détecter effectivement un comportement qui est anormal.
Avant qu'on parle de la réaction du système en cas de détection d'anomalie, du coup, vu qu'Alexandre il a quand même travaillé en écotoxicologie à la base, je suppose que pour avoir un comportement cohérent, il faut maintenir à une certaine condition de vie ou en tout cas un certain milieu de vie, on va dire le toxmètre. Où je me fais des films.
Non, c'est tout à fait ça. Peut-être juste pour comprendre un peu plus. Le comportement locomoteur, donc c'est vraiment ce qu'on va analyser pour détecter s'il y a un problème de pollution chimique ou pas. On va travailler sur une réponse comportementale, sur une suractivité. Par contre, cette suractivité, elle peut être due à un stress chimique, mais elle peut être due à autre chose, à des variations intrinsèques d'une espèce. Par exemple, ouais. On peut muer, donc on va avoir un cycle de reproduction qui va changer, qui va avoir un impact sur la locomotion, des variations de température, etc. Donc en fait, nous, le premier travail qu'on a dû faire, c'était vraiment faire un lien entre comment bougent les organismes et une présence unique de micropolluants. Donc en fait, pour ça, c'est tout un savoir-faire, toute une prestation de service qu'on propose, où les organismes sont issus d'une même population de référence. Donc ça, en fait, on peut faire la correspondance avec les hommes. Par exemple, si on dit 23 degrés, est-ce que c'est chaud ou c'est froid, on ne va pas répondre de la même façon si on vient d'Angleterre, d'Asie, enfin peu importe, ou même d'une même région. Enfin, déjà, on ne va pas avoir la même réponse.
Ouais.
Ensuite, donc ça fait partie de la population de référence. Ensuite, on va sélectionner que des organismes de la même façon, donc que des mâles d'une certaine taille, etc. Donc, par exemple, si on prend du café, si on boit 4 cafés, on ne va pas réagir de la même façon si on a l'habitude d'en boire tout le temps, si on a un enfant de 5 ans, ou si on est cardiaque, etc. Ouais. En fait, ça permet de limiter ou d'exclure des facteurs de confusion. Parce que nous, ce qui est très dur en écotoxicologie, et surtout quand on arrive avec un produit qui est mature et qu'on veut commercialiser, la première question le premier retour qu'on peut avoir, c'est votre outil, ça marche, mais ça marche pas vraiment parce que c'est du vivant et le vivant, c'est aléatoire.
Ah oui.
Et
ah
donc,
oui.
Ça c'est la première réflexion. Donc, nous, tout le travail, c'était de faire en sorte que non, de prouver, et que la biologie, c'est complexe. Il y a plein de paramètres qui peuvent l'influer, mais c'est pas aléatoire. C'est comme si on vous disait que quand vous allez vous faire opérer dans un bloc opératoire, on va vous anesthésier, mais quand on va commencer à vous opérer, peut-être qu'on va vous réveiller parce que c'est un peu aléatoire. Mais non, ça marche pas comme ça. Enfin, la dose, elle sera calibrée en fonction de votre âge, de votre poids, etc. Donc là, c'est la même façon.
Ok, super. Finalement, ce qui est top, c'est qu'on en a vachement parlé dans la saison 3, c'est que c'est l'importance des métiers et on est sur une application où on est loin de l'imaginaire, on va dire, de mathématiciens qui sont derrière leur PC, qui font des applications à sortir de contexte. On est vraiment dans une équipe assez transversale avec des biologistes, des écotoxicologues, où on a réellement une connaissance métier qu'on traduit d'un point de vue algorithme et je trouve ça vraiment top en tout cas. C'est dans des milieux comme ça que j'aime développer des algorithmes, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils sont plus utiles. Avant qu'on termine cet épisode, parce qu'il pourrait durer plusieurs heures si on veut, mais il faut quand même qu'on tienne un certain temps pour que les auditeurs ne soient pas ennuyés, que je sois la seule à me faire plaisir. J'aimerais savoir comment réagit le système quand on détecte une anomalie. Concrètement, sur le Toxmed, quand il y a une anomalie, comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des voyants lumineux? Est-ce qu'il y a une alarme sonore? Et quelle est l'incidence sur la chaîne de valeur derrière une fois qu'une anomalie est détectée?
En fait, il y a pas de voyants lumineux ou de... Ou de...
c'est pas Matrix.
ça marche pas comme ça. Enfin, c'est donc les gestionnaires des eaux ont plusieurs données qui remontent, qui sont en supervision. Donc nous, on suit le même cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces questions de micropollution, et c'est vrai que c'est pas forcément évident à entendre, c'est qu'il n'y a pas de réglementation qui contraint à les mesurer ou à mesurer l'impact, etc.
Ah, je savais pas.
En fait, aujourd'hui, on est plutôt dans l'état de connaissance.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une station d'épuration va devoir respecter des normes de rejet, mais en termes de macropolluants. Donc, c'est tout ce qui est le carbone, l'azote et le phosphore. On va avoir des milieux en fonction du milieu récepteur. Si le milieu est fragile ou pas, on ne va pas avoir les mêmes normes de rejet. Donc en fait, les normes de rejet, c'est plutôt combien de fois il faut que je mesure dans l'année, par jour, etc. Ces questions des micropolluants, on va dire qu'elle est un peu émergente. Le problème a été identifié depuis pas mal longtemps, mais c'est une question émergente. Donc là, il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. Donc c'est les recherches de substances dangereuses, etc. Donc là, on est plutôt dans la phase de diagnostic. En gros, une station d'épuration, c'est un lieu de convergence. Donc les micropolluants peuvent se concentrer. On peut, dans la station d'épuration, c'est les eaux qu'on va utiliser tous dans la vie de tous les jours. C'est la douche, c'est les toilettes, etc. Mais ça peut être aussi des industriels qui sont connectés à ça, les artisans ou de l'eau de pluie. Et aujourd'hui, c'est un peu un état de fait. On utilise des micropolluants dans la vie de tous les jours. Donc, micropolluants, c'est quoi? C'est des médicaments, c'est des solvants, enfin, c'est tout ce qu'on peut utiliser. Et voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça peut converger dans les stations d'épuration, mais les stations d'épuration, elles ne sont pas là pour les arrêter. Donc okay. Là, nous, on est plutôt là pour commencer un diagnostic. En sortie, est-ce que l'eau, elle est de bonne ou mauvaise qualité? Est-ce qu'il y a des variations, etc.? Et donc, du coup, nous, pour répondre à la chaîne de décision qu'il y a une fois qu'il y a une alerte, donc en fait, l'alerte, c'est, on va dire c'est un feu tricolore qui bouge toutes les deux minutes, on va pas avoir la même alerte en fonction du cas d'application. Aujourd'hui, si une station d'épuration nous utilise pour faire un diagnostic pour savoir si la station d'épuration fonctionne bien ou pas, ou s'il y a des variations de micropolluants, on va être plutôt dans un état de diagnostic. On va donner un bilan au bout de 6 mois, 1 an, etc.
Okay.
Ensuite, pour commencer à travailler sur est-ce qu'on peut rajouter des modules pour arrêter ces micropolluants, donc qui sont des traitements plus spécifiques. Ou sinon, il y a des contextes où c'est par exemple de la réutilisation des eaux. Donc, Georges l'a dit en introduction, on peut avoir des quantités d'eau qui commencent à diminuer dans certains territoires.
Ouais.
Donc, du coup, les gens de stations d'épuration, donc normalement, ça se déverse dans le milieu récepteur, donc dans une rivière, etc. Mais on peut la réutiliser pour des fins agricoles ou dans l'usage de la ville. Et en fait, là, le Toxmate peut servir d'aiguilleur.
L'eau
est de bonne qualité, je vais la réutiliser. Elle est de mauvaise qualité, c'est un peu triste à dire, mais elle va dans le milieu récepteur.
Okay.
Et sinon, pour l'eau potable, c'est une station d'alerte. C'est l'eau est de bonne qualité, je peux alimenter mon usine ou non. Par contre, c'est toutes les questions qui est derrière. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Est-ce que je peux puiser dans une autre ressource? Et sinon, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, parce que comme la quantité d'eau diminue, les pressions anthropiques continuent, mais en fait on va concentrer le problème. Aujourd'hui, on va mesurer plutôt les efficacités de traitement de ces micropolluants pour à la fois assurer une préservation de la santé humaine, mais aussi l'environnement en fonction des intrants ou des sortants.
C'est vachement intéressant parce que je me dis que finalement, on est dans une optique où on propose une solution, mais on a quand même une chaîne de valeur derrière pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont cohérentes, parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut aussi, comme tu dis, juste déverser dans les récepteurs et l'oublier. Mais en fait, en soi, si on déverse dans les récepteurs, ça finira à un moment donné pas être aussi pour nous, hein, parce que les sols sont pollués et puis le cycle, il continue. On a beaucoup parlé des stations d'épuration avant qu'on termine avec la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui peuvent être intéressées par cette solution-là, ou en tout cas pour laquelle cette solution est pertinente? Et je les appelle vivement à vous appeler parce que notre santé à tous en dépend, quoi.
En fait, nous on a répondu à une question qui est hyper transversale. C'est mesurer de façon instantanée si une eau, elle est bonne ou mauvaise qualité. Donc en fait, on va avoir différents domaines d'application. Ça peut être l'eau potable, donc on a expliqué. Parce qu'en fait l'eau potable, pareil, il faut expliquer un tout petit peu le contexte. C'est soit on va avoir une eau qui est superficielle, donc une rivière, donc on peut avoir des pollutions, des accidents, etc. Donc là, ça permet d'orienter. On peut avoir des eaux souterraines aussi.
Ouais.
Les eaux souterraines, enfin, c'est souvent assimilé à quelque chose qui est très stable et qui ne vont pas avoir des pollutions. En fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément vrai. Il y a les milieux récepteurs, les suivre en temps réel. Aujourd'hui, nous, on travaille très peu sur ça parce qu'il y a la question qu'il y a derrière, c'est forcément les coûts de l'investissement et du financement. Aujourd'hui,
ouais,
il n'y a pas d'entité qui... une force qui peut les utiliser. Et sinon, notre cœur de métier, nous, c'est vraiment les stations d'épuration urbaines et industrielles. Et là, je pense que peut-être que Georges peut prendre le relais sur les parties industrielles où, en fait, ça met en corrélation le développement qu'on avait déjà fait en amont et où on ajoute la compétence d'identification des substances en temps réel pour aider. Enfin, je ne sais pas si ça peut...
Ah, mais ça répond complètement à ma question. C'était vraiment histoire de on va dire, de compléter la chose avant de terminer, parce que on a conscience que l'environnement est une affaire de tous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que je dis toujours que la Terre, c'est un peu notre bateau à tous, hein. Si elle coule, on coule tous. Et donc, on a tout intérêt à, on va dire, mutualiser les forces et aller dans le bon sens. Et comme dans toutes les saisons, on aura une question fil rouge cette saison aussi, ça allait de soi que la question soit en relation avec la protection de l'environnement. Si vous avez un geste simple, je précise, accessible à tous, et pourtant que vous jugez nécessaire, lequel serait-il? Et j'aimerais bien que vous le partagiez avec moi et avec les auditeurs.
Nous, on travaille vraiment sur la pollution chimique. La pollution chimique, c'est souvent, enfin, on s'est associé à des agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires, c'est associé à des industriels, etc. Mais en fait, la question, elle est beaucoup plus complexe. Et nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a nos responsabilités. Un geste simple pour limiter tout ça, ça serait de revoir un peu nos consommations. Par exemple, si j'ai le choix entre un produit détergent hyper corrosif ou quelque chose de plus naturel, prendre le produit le plus naturel. La consommation de médicaments, peut-être le faire avec un peu plus de parcimonie. Voilà, c'est ces gestes de tous les jours qui vont faire en sorte de limiter les intrants des micropolluants dans l'environnement.
Bah, super. Bah, merci Alexandre. Et toi, Georges ?
Mon conseil, c'est plus ou moins la même chose. C'est pas forcément en lien avec la pollution, mais ça peut tout à fait être appliqué au même contexte. C'est vraiment juste, l'eau, c'est surtout la ressource qui nous fait vivre. Et c'est de rentrer la réflexion sur son utilisation et la consommation et de réfléchir en permanence juste à ses actions simples. Donc, ce n'est pas forcément de faire quelque chose de très qui va complètement changer la vie de la personne, mais c'est juste exactement comme disait Alexandre, si on a le choix pour nettoyer ses douches entre un eau de Javel très toxique ou des cristaux qui sont moins toxiques, c'est d'opter pour celui-là parce que justement, ça peut avoir même des tout petits changements, ça peut avoir un impact assez conséquent sur l'environnement.
Moi, je suis complètement d'accord, hein, Kif, que c'est des... En tout cas, pour que ce soit faisable et tenable, il faut qu'on ait des petits gestes qui ont des gros impacts. Alors, pour aller dans votre sens, parce que comme ça, on ne va pas me reprocher cette saison de ne pas donner une astuce à chaque épisode. Alors, moi, je fais quelque chose. Je pense que tout le monde peut le faire. C'est avant d'avoir de l'eau chaude, quand je fais couler mon eau chaude, parce que je ne prends pas encore des douches froides, je prends juste un seau et puis je mets l'eau dedans et j'arrose mes plantes avec. Je pense que ça, on peut tous faire ça. Garder l'eau et pour arroser ses plantes ou lui trouver une autre utilité parce qu'on a toujours besoin d'eau pour plein de choses. Et je pense qu'on peut faire des petites économies dans ce sens-là. Alors, avant de conclure l'épisode, qu'est-ce que je peux souhaiter à Viewpoint pour les mois à venir, Alexandre ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Alexandre et George, nous, pour la... Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? C'est avoir des retours d'expérience qui parlent aux gestionnaires des eaux et qui s'approprient la techno, parce que c'est quelque chose qui n'est pas réglementaire, qui n'est pas obligatoire. Pour que ce soit le plus utilisé, pour pouvoir répondre à ces questions de pénurie d'eau et de qualité des milieux récepteurs.
Et toi, Georges, à part te dire quand même de passer une très belle fin de thèse, parce que c'est une belle expérience, qu'est-ce que je peux te souhaiter aussi au sein de Viewpoint pour les mois à venir ?
C'est justement que mes recherches scientifiques commencent à être utiles justement dans des stations industrielles, pour essayer de diagnostiquer les problèmes de pollution qui peuvent arriver dans des stations et pour fournir plus un indicateur à la source de contamination dans ces endroits-là. Parce que plus vite on réagit, plus vite on peut régler le problème.
Eh bien, super. On sait tous, en tout cas, que l'eau, ça fait partie des ressources en tension, si je peux dire ça. Et donc, je souhaite vraiment que vous puissiez contribuer à ce que la tension baisse un petit peu, en tout cas, qu'on prenne conscience de niveau de pollution de l'eau.
Pour moi, je pense que ça fait partie des autres points. Et d'ailleurs, où est-il ce podcast ? C'est cette information du petit cycle de l'eau, des pollutions, etc., en fait, qui est très peu connue du grand public. En fait, aujourd'hui, nous, quand on travaille sur des stations d'épuration, etc., au début, on était neuf sur le cas et on ne savait pas qu'il y avait très peu de traitements de micropolluants, etc. Et que ces questions sont nouvelles. Aujourd'hui, je pense que, à travers les réponses qu'on a pu apporter avec George, je pense que ça répond à une certaine méconnaissance de ce domaine-là, où on pense que tout est maîtrisé, tout est contrôlé et tout est vérifié, alors que y a des choses qui sont encore à améliorer, parce que ces questions sont nouvelles.
C'est super. En tout cas, ça nous fait plaisir de contribuer, si on peut dire ça. En tout cas, moi, ça me paraît tout à fait normal. Vous retrouvez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/saison4-pollution de l'eau. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et sur l'épisode d'aujourd'hui de se rendre compte à quel point la question de l'eau est cruciale. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com. Stéphanie et moi, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, la Terre est notre vaisseau commun, alors on prend soin d'elle. À jeudi prochain!